RFI 7h30 à Alger et Paris, 6h30 à Nzérékoré.
RFI Matin.
L'heure du journal de Vincent Dublanger. On reparle, Vincent, de la détention de l'écrivain Boualem Sansal en Algérie.
Son avocat français va saisir l'ONU. Il dit ne pas avoir pu se rendre en Algérie et n'avoir pas accès à son client, dont il n'a d'ailleurs aucune nouvelle depuis 2 semaines. L'écrivain algérien Kamel Daoud appelle lui aussi à ne pas l'oublier et se félicite que l'on se mobilise en ce moment aussi pour Boualem Sansal en Allemagne. À la une des sanctions, peut-être contre des responsables locaux en Guinée après le drame de Nzérékoré. En tout cas, les familles des victimes font le lien entre la tragédie et ces limogeages, mutations annoncées ces derniers jours par les autorités. On va tenter dans ce journal de décrypter également ce que veulent dire et comment font réagir les propos du président du Ghana sur la CDAO et sur l'AES. Et puis notre dossier dans 10 minutes sur la Confédération africaine de football. Elle tient son assemblée générale élective aujourd'hui. Patrick Motsepe sera reconduit. On parle de l'influence et de l'ingérence de la FIFA dans la CAF avec Olivier Pron. Dans 10 minutes donc.
L'avocat français de Boualem Sansal va saisir ce mercredi les Nations Unies pour dénoncer la détention arbitraire de son client.
C'est ce qu'a annoncé hier maître François Zimeret. Il tenait une conférence de presse chez l'éditeur de Boualem Sansal, Gallimard, à Paris. L'avocat dit être sans nouvelles de son client depuis 15 jours maintenant. L'écrivain franco-algérien est détenu en Algérie depuis mi-novembre. Il est poursuivi pour des déclarations faites en France au journal d'extrême droite Frontières, déclarations considérées comme portant atteinte à l'intégrité du territoire algérien. Boualem Sansal évoquait notamment le découpage colonial de l'Algérie par la France qui aurait, selon lui, entraîné la perte de territoire marocain au profit d'Alger. Le président algérien avait qualifié ses propos, Abdelmajid Tebboune, en décembre, ses propos, il avait qualifié Boualem Sansal, d'imposteur. Hier, donc, lors de cette conférence de presse dont je vous parlais dans les locaux de la maison d'édition Gallimard, un autre écrivain algérien, Kamel Daoud, qui vit en France, récent prix Goncourt, s'est félicité d'un début de mobilisation hors de France, en l'occurrence à Berlin, en Allemagne. On l'écoute.
Cela nous sort du bilatéral où on essaie d'enfermer le cas de Boualem Sansal et cela rapatrie un peu les enjeux à leur vraie place. Boualem Sansal, c'est une affaire franco-française parce que la France est un pays de culture. Boualem Sansal, c'est une affaire algéro-algérienne parce qu'il s'agit aussi d'un Algérien et que dans ce pays-là, on s'est battu pour être libre, non pas pour mettre des écrivains en prison. Boualem Sansal, c'est une affaire franco-algérienne parce que, qu'on le veuille ou pas, nous partageons maintenant des morts, des enfants, des migrants, des voyageurs et des binationaux. Donc on ne peut pas dire que c'est quelqu'un d'étranger à nous deux. C'est quelqu'un à la fois qui est nous et qui fait le lien entre les deux pays. Boualem Sansal, c'est un homme qui a 80 ans, qui croupit en prison, sans procès, sans inculpation, sans droit de visite, sans avocat. Et il incarne, c'est le corps de tous les écrivains algériens aujourd'hui, qui se taisent par peur, qui se taisent parfois par prudence, qui sont persécutés, qui sont exilés. Donc Boualem Sansal, c'est un peu tout cela. Et si nous l'oublions, un jour ça nous atteindra même dans ce pays-là. On est fatigué de cette histoire-là, on est fatigué de la persécution, on est fatigué de tout cela. Nous avons besoin de libérer Boualem Sansal et de libérer l'Algérie.
Et des propos recueillis par Pierre Firsion. Y aura-t-il des discussions directes entre le gouvernement de la République démocratique du Congo et le groupe armé du M23? C'est ce qu'affirment les autorités angolaises. Discussion gouvernement M23 à Luanda dans les prochains jours. Cela fait suite à une rencontre hier entre les présidents Tshisekedi et Lorenzo. Kinshasa dit prendre acte et attendre de voir la mise en œuvre de cette démarche angolaise. Les détails sur RFI.fr.
En Guinée, le gouvernement a annoncé lundi le limogeage et la mutation de 3 responsables civils et militaires.
En poste dans la région de Nzérékoré, dans le sud-est. Cela pourrait ressembler à des mesures en lien avec la bousculade meurtrière du 1er décembre dernier. 56 morts selon le bilan officiel, au moins 140, disent les organisations non gouvernementales locales. Ces limogeages et mutations interviennent dans la foulée du dépôt de plainte par les familles de certaines victimes. Les autorités guinéennes ne font pas le lien avec la tragédie, mais pour les avocats des familles, cela ne fait aucun doute, Sidi Yansané.
L'annonce a été faite par un communiqué du ministère de l'administration territoriale lu durant le journal télévisé.
Président de la délégation spéciale de Nzérékoré est limogé pour faute lourde.
Mais le document ne précise pas la nature de cette faute lourde. Dans la même séquence, le ministère annonce que le gouverneur et le préfet de Zérékoré, tous deux militaires, opèrent pour leur part un jeu de chaises musicales avec leurs homologues de deux autres régions, le préfet de Zérékoré permute avec celui de Boké et le gouverneur avec celui de Mamou, là aussi sans plus de précision. Mais ces décisions coïncident avec le dépôt de la plainte de 98 familles de victimes qui accusent les hiérarchies militaires et civiles locales d'une quinzaine d'infractions, dont meurtre, homicide involontaire et recel de cadavres. L'avocat des familles, maître Paul Lazare Bilimou, encourage les autorités de transition à aller plus loin.
Elle ferait mieux d'ailleurs de les démettre tous de leurs fonctions au lieu de les muter. Cela va permettre au procureur de mener mieux ses actions. Parce que n'oublions pas que le parquet est régi par la hiérarchie. Donc quelque part, il peut recevoir des instructions de part et d'autre. Nous entendons ce que les autres soient limogés et ça ne se limite pas seulement au limogage, mais qu'ils soient mis à la disposition de la justice.
La plainte des familles vise également le ministre de la Santé Félix Lama et celui des Sports Bogola Abba, tous deux présents au stade lors de la bousculade de Zérékoré.
Sidi Ansané.
Au Niger, cela fait 100 jours ce mercredi que Moussa Tchangari est emprisonné.
Le secrétaire général de l'ONG Alternative Espace Citoyen a été enlevé le 3 décembre par des hommes armés en civil. Il est incarcéré à la prison de Filingué depuis le 3 janvier. Moussa Tchangari est poursuivi pour de multiples infractions alléguées, notamment atteinte à la sûreté de l'État. De nombreuses associations de défense des droits humains estiment que ce sont des propos critiques sur le régime en place qui lui valent d'être emprisonné. Elle demande sa libération. Maman Kakatouda est l'un des collaborateurs de Moussa Tchangari au sein de son ONG. Il a pu lui rendre visite dimanche dernier.
Ça fait jour pour jour, 100 jours. Le dimanche dernier, j'ai pu le visiter dans ce mois de Ramadan. Il va bien, il a le moral très haut. Il garde espoir parce qu'il ne se reproche absolument rien. Et c'est bien dommage que des acteurs civiques, des défenseurs des droits humains se retrouvent dans des situations comme ça.
Il garde le moral. Est-ce que vous êtes en contact aussi avec sa famille?
Je suis particulièrement en contact avec sa femme, ses frères, ses enfants. Écoute, ils gardent espoir. Ils ont souhaité vraiment qu'il allait être libéré avant le mois de Ramadan pour qu'il puisse jeûner dans sa famille. Mais c'est bien dommage que cela n'a pas été obtenu. Nous fondons l'espoir que la procédure judiciaire va s'accélérer. Quand même, 100 jours, ce n'est pas rien. Donc, nous souhaitons vivement que la procédure judiciaire puisse être accélérée afin que Moussa puisse rapidement retrouver sa liberté. La place de Moussa Tchangari n'est pas la prison.
Maman Kakatouda, l'un des collaborateurs de Moussa Tchangari.
Le Niger, le Faso, le Mali vont-ils réintégrer la CDAO ou la CDAO va-t-elle plutôt reconnaître l'AES, l'Alliance des États du Sahel?
La question se pose après la visite du président ghanéen dont on a parlé ces derniers jours. John Dramani Mahama est allé dans les trois pays. Il a évoqué la réalité irrévocable que constitue l'AES. Il a aussi affirmé la nécessité de la reconnaissance de l'AES par la CDAO. Analyse, David Baché.
C'est une initiative du président ghanéen. Cela n'engage que lui. Voilà en substance ce qu'affirment plusieurs cadres de la CDAO qui assurent que la démarche n'avait pas été concertée. C'est une proposition que l'on entend ça et là depuis quelques semaines, nuance un chercheur au large carnet d'adresses, estimant que cela donne une indication de ce que pourrait être l'objectif de la CDAO. Non plus le retour des trois pays, mais l'établissement d'une coexistence pacifique. L'AES existe, c'est un fait. La reconnaître, c'est comme dire que le soleil se lève à l'est, ironise pour sa part un diplomate ouest-africain. Mais les militaires de l'AES veulent plus, poursuit cette source. Ils voudraient que l'AES soit reconnue comme une communauté économique régionale, au même titre que la CDAO ou la SADC, croit savoir ce diplomate. C'est une chimère. Selon cette source, John Dramani Mahama voudrait s'ériger en intermédiaire privilégié à la place de Faure, le président togolais. Objectif: renforcer sa stature et son influence sur le continent et s'assurer des débouchés économiques, notamment pour les ports ghanéens. Aucun chef d'État ouest-africain n'a réagi aux déclarations du président ghanéen jusqu'à présent.
Et cette proposition du président ghanéen, sa triple visite, peut-elle relancer le dialogue? On attend vos avis dans Appel sur l'actualité. 8h10 heure de Bamako et Ouaga, 9h10 heure de Niamey. Un mot du procès au Bénin dans l'affaire de la mort d'Urbain Daniveau, syndicaliste et opposant en 2010. Les deux accusés hier ont affirmé avoir été manipulés par des proches des autorités de l'époque ce mercredi. On attend les témoins, on en parle dans le prochain journal Afrique dans une heure.
Au Togo, des délestages en perspective.
En tout cas, des perturbations à prévoir ce mois-ci dans la fourniture d'électricité. Il y a des opérations de maintenance. Elles ont commencé la semaine dernière, elles se poursuivent encore au moins deux semaines jusqu'au 25 mars. La Ligue des consommateurs du Togo appelle à davantage investir dans le secteur. Magali Lagrange.
L'une des centrales thermiques du parc de production nationale est en maintenance, explique la compagnie Énergie électrique du Togo, sans préciser laquelle, pour éviter d'éventuels dommages sur ses équipements. Conséquence, la CET prévient que des perturbations dans la fourniture d'énergie électrique pourraient survenir en période de forte demande. C'est la deuxième fois cette année que des perturbations sont annoncées, remarque le président de la Ligue des consommateurs du Togo. Emmanuel Sogadji souligne le mécontentement des consommateurs en raison des répercussions sur le quotidien des particuliers comme des entreprises qui peuvent aller de la perte de produits périssables à l'interruption de services essentiels. La Ligue des consommateurs demande donc plus d'informations sur la durée des perturbations ainsi que plus d'investissements dans les infrastructures électriques et dans les énergies renouvelables pour diversifier l'approvisionnement. Selon un expert de la sous-région, le Togo importe encore la moitié de son énergie, principalement du Ghana et du Nigeria. Le pays a toutefois réduit sa dépendance au cours des dernières années grâce à l'installation de capacités additionnelles, citant notamment les centrales solaires.
Et Magali Lagrange.
On connaît les quatre premiers qualifiés pour les quarts de finale de la Ligue européenne des champions de foot.
Le PSG, d'abord, qui a éliminé Liverpool au tir au but hier, après sa victoire 1-0. Barcelone a battu le Benfica Lisbonne 3-1. Le Bayern de Munich a disposé du Bayer Leverkusen 2-0. L'Inter Milan du Feyenoord Rotterdam 2-1. Ce soir, on suivra Lille Dortmund à 17h45 TU. Et puis à 20h TU, Atlético Madrid, Real Madrid, Arsenal, PSV Eindhoven et Aston Villa Bruges.
Ce mercredi a également lieu l'Assemblée Générale élective de la Confédération Africaine de Foot.
Oui, la CAF qui renouvelle au Caire en Égypte une partie de ses instances dirigeantes. On attend notamment l'entrée au comité exécutif du Camerounais Samuel Eto'o. Et puis la réélection dans un fauteuil du Sud-Africain Patrick Motsepe, Olivier Pron.
En mars 2021, à Rabat, Patrice Motsepe devient président de la CAF à la surprise générale, ou presque. Jusque-là, le premier milliardaire noir d'Afrique du Sud, neuvième fortune du continent aujourd'hui, n'était connu que des initiés en tant que président du club de Pretoria, les Mamelodi Sundowns, propulsé sur le devant de la scène footballistique à l'époque pour, en homme d'affaires qu'il est, remplir les caisses d'une CAF aux abois financièrement. Quatre ans plus tard, c'est en partie chose faite. Le succès notamment médiatique, comme jamais, de la dernière CAN en Côte d'Ivoire est passé par là, la plus belle des Coupes d'Afrique des Nations, comme on l'appelle, jusqu'à la prochaine, a été diffusée partout dans le monde. Succès aussi la création d'un championnat scolaire et d'une Super League fermée en 2023 qui promettait beaucoup aux clubs participants. Problème, elle n'a connu qu'une seule édition. Pour le reste, il faut nuancer vraiment ce bilan de Patrice Motsepe, à rappeler les reports incessants des différents CHAN, les difficultés pour trouver un pays hôte à la CAN féminine. Enfin, les dates de la CAN, compétition reine, sans cesse chamboulées au gré des désiderata de l'UEFA et surtout de la FIFA, une instance mondiale dont certains, au sein même de la CAF à présent, dénoncent la mainmise sur les décisions importantes et la gouvernance.
Une ingérence de la FIFA qui est apparue clairement dès l'élection de Patrick Motsepe pour son premier mandat il y a 4 ans et qui, pour Philippe Doucet, consultant de Radio Foot International, n'a cessé de croître depuis.
Monsieur Motsepe a été installé à la tête de la CAF par la FIFA et à la suite d'un accord où on a dissuadé tous les autres candidats. Donc ça a été quelque chose d'extrêmement clair, et un bis repetita, puisque 4 ans plus tard, à nouveau, globalement, tout le monde s'est accordé par avance pour qu'il n'y ait pas de contradicteur pour Patrice Motsepe. Je pense que la FIFA ne voulait pas prendre le moindre risque que Motsepe ne soit pas élu. Du coup, on a à nouveau une élection par main levée. Bon, c'est pas la meilleure version démocratique. Et surtout, ça dénote que la FIFA domine toujours très nettement la CAF. Il y a des problèmes financiers à la CAF. Du coup, la FIFA fait ce qu'elle veut avec. Et la démonstration, c'est évidemment la date de la prochaine CAN qu'on a casée quand on a pu au Maroc. Parce que, en gros, les dates étaient prises par la FIFA, par l'UEFA. On va la mettre là à Noël parce qu'on ne sait plus où la mettre.
Quoi. Philippe Doucet, interrogé par Olivier Pron, et le début de cette assemblée élective de la CAF au Caire, en Égypte, c'est dans un peu plus d'une heure.
Merci Vincent Dublanche, on en reparle dans le prochain Journal des Sports dans une heure, 7h44 à Paris.